Chapitre 22. Organisation. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Tite 1, verset 5. Le message du troisième ange progressa pendant 12 ans, de 1846 à 1858, avant que nos membres réalisent la nécessité d'une association formelle plus qu'une simple conviction de la vérité et un amour chrétien. Bien que le Seigneur ait parlé à son peuple à ce sujet par le don de prophétie, il semblait avoir besoin de quelques expériences négatives pour le réveiller pleinement à un sens de la nécessité d'organiser des fédérations, des églises et des associations pour la gestion des affaires temporelles de la cause. Opposition à l'organisation. Dans une note, à la page 12 du Supplement to Experience and Views, supplément à expérience et vision, publié en 1853, James White écrit « Après que la date fixée soit passée, en 1844, il y avait beaucoup de confusion et la majorité s'opposait à une quelconque organisation, jugeant que cela était incompatible avec la parfaite liberté de l'Évangile. Madame White fut toujours opposée à toute forme de fanatisme et dès le début annonça qu'une certaine forme d'organisation était nécessaire pour prévenir et corriger la confusion. Peu de gens, à l'heure actuelle, peuvent apprécier la fermeté qui était alors nécessaire pour maintenir sa position contre l'anarchie régnante. L'union qui existait parmi les adventistes du septième jour a été grandement favorisée et maintenue par ses avertissements et ses instructions opportunes. » George Storrs sur l'organisation. Le texte suivant de George Storrs, écrit en 1844, montrera ce qui était enseigné au sujet d'une organisation à ceux qui s'étaient séparés eux-mêmes des églises pendant la proclamation adventiste. Prenez garde à ne pas chercher à organiser une autre église. Aucune église ne peut être organisée par l'homme sans qu'elle devienne Babylone dès qu'elle est organisée. Le Seigneur organisa sa propre église par les liens forts de l'amour. On ne peut pas faire plus fort que ça. Et lorsque de tels liens ne retiendront pas les disciples du Christ ensemble, ils cesseront d'être ses disciples et se sépareront du corps, du Christ, en un rien de temps. L'ordre au temps apostolique. Les adventistes du septième jour, comme nous l'avons déclaré précédemment, étaient sans organisation formelle d'aucune sorte depuis de nombreuses années, sans même une organisation d'église. Toute personne qui avait le courage moral d'accepter la vérité et d'y obéir sous la pression de l'opposition extérieure qui existait alors, était considérée comme honnête et digne de l'amour chrétien et de fraternité chrétienne. Il vint un moment, du temps des apôtres, où il devint nécessaire de mettre en ordre ce qui reste à régler. Tite 1, versets 5 à 9. Aux environs de l'an 65 de notre ère, Tite fut autorisé à établir des anciens dans chaque ville, où il y avait des croyants, et Timothée reçut beaucoup d'instructions sur ce sujet. 1 Timothée 3, versets 1 à 15. Frère White sur l'organisation. Le texte suivant de James White, au sujet de l'organisation et de la discipline, apparut dans la Review du 4 janvier 1881. L'organisation a été conçue pour garantir l'unité d'action et comme une protection contre l'imposture. Elle n'a jamais été prévue comme un fouet pour imposer l'obéissance, mais plutôt pour la protection du peuple de Dieu. Le Christ ne conduit pas son peuple, il l'appelle. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. La tête du corps de l'Église ouvre la voie et appelle son peuple à le suivre. Les credos humains ne peuvent pas produire l'unité. La force de l'Église ne peut pas rassembler l'Église en un seul corps. Le Christ n'a jamais conçu que l'esprit humain fût moulé pour le ciel par l'influence d'autres esprits humains. Le chef de chaque homme est le Christ. Sa part est de diriger, de mouler et de mettre sa propre image sur les héritiers de la gloire éternelle. Aussi importante que l'organisation puisse être pour la protection de l'Église et pour assurer l'harmonie de l'action, elle ne doit pas ôter la discipline des mains du Maître. L'unité entre deux extrêmes. Entre les deux extrêmes de la force de l'Église et une indépendance non sanctifiée, nous trouvons le grand secret de l'unité et de l'efficacité dans le ministère et dans l'Église de Dieu. Notre attention est attirée sur ce point dans l'appel le plus solennel que le vénérable apôtre Pierre fit aux anciens de son temps. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, versets 1 à 6. Simplicité et forme de l'organisation. Dans le Nouveau Testament, ceux qui ont rédigé la forme d'organisation adoptée par les adventistes du septième jour s'efforcèrent d'y intégrer autant que possible la simplicité d'expression et de forme trouvée dans le Nouveau Testament. Plus l'esprit de l'Évangile est manifesté, plus simple et plus efficace sera le système. La conférence générale prend la direction générale du travail dans toutes ses branches, y compris les fédérations d'État. La fédération d'État prend la direction de toutes les branches de l'œuvre dans l'État, y compris les églises dans l'État. Et l'Église est un corps de chrétiens associés avec la simple alliance de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les officiers de l'Église sont des serviteurs. Les dirigeants d'une Église locale sont des serviteurs de l'Église et non pas des seigneurs qui la dominent avec force. Que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Matthieu 23, verset 11. Ces dirigeants doivent être des exemples de patience, de vigilance, de prière, de bonté, de libéralité pour les membres de l'Église et doivent manifester envers ceux qu'ils servent un bon degré de l'amour qui fut manifesté dans la vie et les enseignements de notre Seigneur. Le premier témoignage sur l'ordre. Dans Premiers Écrits, certaines instructions spéciales sont données au sujet de l'ordre évangélique. On les lit à la page 115. L'Église doit avoir recours à la parole de Dieu et revenir à l'ordre évangélique, perdu de vue et négligé. C'est une nécessité absolue si l'on veut faire régner dans l'Église l'unité de la foi. L'ordre est nécessaire près de la fin. Dans un témoignage donné le 23 décembre 1860, nous lisons « Alors que nous approchons de la fin des temps, Satan descend avec grande puissance, sachant qu'il a peu de temps. En particulier, son pouvoir s'exercera sur le reste. Il leur fera la guerre et cherchera à les diviser et à les disperser, pour qu'ils s'affaiblissent et soient renversés. Le peuple de Dieu doit se déplacer de manière compréhensive et doit être uni dans ses efforts. Ils doivent être d'un même esprit, d'un même jugement, et alors leurs efforts ne seront pas dispersés, mais influenceront puissamment l'édification de la cause de la vérité présente. L'ordre doit être respecté, et il doit y avoir unité dans le maintien de l'ordre, sinon Satan pourra profiter d'eux. L'ordre des anges doit être imité. Dans le témoignage numéro 14, publié en 1868, nous lisons « Plus nous imiterons l'harmonie et l'ordre qui règnent dans l'armée angélique, plus les efforts de ces agents célestes en notre faveur seront remplis de succès. Si nous ne voyons pas la nécessité d'une action harmonieuse et que, dans notre activité, nous sommes désordonnés, indisciplinés et désorganisés, les anges, qui sont parfaitement organisés et qui agissent dans l'ordre, ne peuvent nous apporter une aide efficace. Ils se retirent attristés, car ils ne sont pas autorisés à donner leur appui à la confusion, à la distraction et à la désorganisation. Dieu est toujours un Dieu d'ordre. Est-ce que Dieu n'est plus un Dieu d'ordre? Si, il est le même dans la présente dispensation que dans l'ancienne. Paul dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il est aussi particulier aujourd'hui qu'alors. Et il est dans son intention que nous tirions des leçons d'ordre et d'organisation de l'ordre parfait qu'il établit au jour de Moïse, au bénéfice des enfants d'Israël. » La prière du Christ pour l'ordre. Dans un témoignage écrit en 1882, nous voyons le même sentiment exprimé en ces termes. Que l'unité et l'amour existent parmi ses disciples était la préoccupation de la dernière prière de notre Sauveur pour eux avant sa crucifixion. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, versets 20 à 21. Danger de l'indépendance individuelle. En 1885, ce témoignage a été donné. Un point devra être surveillé, c'est celui de l'indépendance individuelle. En tant que soldats de l'armée du Christ, nous devons agir de concert dans les différents départements de l'œuvre. Satan prend plaisir à renverser l'ordre. Dans un témoignage spécial publié en 1895, nous lisons « Combien Satan se réjouirait s'il pouvait réussir à répandre cet esprit parmi le peuple adventiste ? Il désorganiserait ainsi l'œuvre au moment où une solide organisation est essentielle et où elle sera du plus grand effet pour nous garder des mouvements qui sont des contrefaçons et pour réfuter des prétentions qui ne sont pas approuvées par la parole de Dieu. Nous voulons tenir solidement les positions que nous occupons, afin que ne s'effondre pas le système de régulation et d'ordre. » L'original anglais est modifié dans Service chrétien, page 84. Recommandation des ministres. L'un des premiers points à considérer dans l'établissement de l'ordre parmi notre peuple, en harmonie avec les témoignages que nous venons de citer, était une certaine façon de reconnaître ceux qui prêchaient le message. De 1850 à 1861, le plan adopté fut de donner aux ministres qui avaient prouvé leur don et qui étaient évidemment approuvés du Seigneur et en harmonie avec toute l'œuvre, une carte les recommandant partout au peuple de Dieu, indiquant simplement qu'ils étaient approuvés dans le travail pastoral évangélique. Ces cartes étaient datées et signées par deux des principaux ministres, connus par notre peuple pour être des dirigeants de l'œuvre. Soutien ministériel. Pendant l'hiver 1858 à 1859, une instruction fut donnée disant que la Bible contient un système complet pour le soutien du ministère, et que si notre peuple étudiait la question d'un point de vue biblique, il trouverait ce système. En conséquence, une classe de Bible présidée par Frère Andrews eut lieu à Battle Creek. Après une étude attentive et pleine de prières des Écritures, un article fut préparé et publié dans la Review du 3 février 1859, présentant un plan qui adoptait le principe de la dîme. Un discours sur ce sujet fut donné à un grand rassemblement de notre peuple, réuni en assemblée générale à Battle Creek, Michigan, le 6 juin 1859, et la dîme fut adoptée à l'unanimité par vote de l'assemblée tout entière. Approbation de l'ordre établi. Dans le témoignage numéro 6 de 1861, le Seigneur parla ainsi, par Madame White, concernant le système qui avait été adopté par les adventistes du septième jour. « Ne dérobez pas Dieu en lui refusant vos dîmes et vos offrandes. C'est le premier devoir sacré de rendre à Dieu une proportion convenable. Que personne ne fasse de revendications et ne vous amène à voler Dieu. Ne laissez pas vos enfants voler vos offrandes de l'autel de Dieu pour leur propre bénéfice. » Le système de la dîme développe le caractère. J'ai vu que ce système de la dîme développerait le caractère et manifesterait l'état réel du cœur. Si on présentait cette affaire aux membres dans sa véritable signification, et si on les laissait décider eux-mêmes, ils verraient la sagesse et l'ordre du système de la dîme. De cette manière, un système de financement fut établi parmi les adventistes du septième jour, pour soutenir le travail du ministère, et il est maintenant utilisé par notre peuple dans le monde entier. Dans la Review du 21 juillet 1859, à la suite d'une instruction donnée auparavant dans les testimonies, témoignages, il fut suggéré que les membres de chaque État tiennent une réunion annuelle au cours de laquelle on effectuerait une planification rigoureuse de l'œuvre, pour éviter ainsi la confusion qui existait trop souvent dans le travail ministériel, et pour que l'ordre et le système soient observés dans notre œuvre. Le but désiré par cette suggestion était la formation d'une fédération pour chaque État. La possession des biens d'Église. Comme le message progressait et que le nombre de membres augmentait, il s'ensuivit naturellement une accumulation de biens, ce qui conduisit à considérer la possession légale de biens d'église. Dans un article de Frère White, trouvé dans la Review du 23 février 1860, on lit ce qui suit. Cependant, nous espérons que le temps n'est pas éloigné où ce peuple sera en mesure d'assurer les biens de l'Église, de posséder ses maisons de réunion de façon appropriée, afin que ceux qui font leur testament puissent donner, s'ils le souhaitent, une partie au département des publications. Nous demandons aux prédicateurs et aux frères dirigeants d'accorder leur attention à cette question. Si quelqu'un objecte à nos suggestions, pourriez-vous, s'il vous plaît, écrire un plan sur lequel nous, en tant que peuple, puissions agir ? Organisation juridique approuvée. Au cours de l'été de cette année-là, il y eut des discussions plus ou moins amicales sur ce sujet dans la Review. Et dans un rassemblement général des représentants de nos membres du Michigan et de plusieurs autres États, qui eut lieu à Battle Creek du 28 septembre au 1er octobre, il y eut considération sincère du sujet et une discussion libre et complète de l'organisation juridique dans le but de posséder la propriété de l'office et d'autres biens de l'Église, tels que les maisons de réunion, etc. Cette discussion se trouve en totalité dans la Review, volume 16, numéros 21, 22 et 23, publiés les 9, 16 et 27 octobre 1860. Comme résultat des délibérations à ce rassemblement, il a été voté à l'unanimité d'organiser légalement une association d'imprimerie et, afin qu'une telle société puisse être formée dès que possible, un comité de 5 personnes a été élu par la conférence réunie. Le nom de la dénomination. Cette conférence a également discuté du nom par lequel notre peuple devait être appelé. Cela aussi a suscité diversité d'opinions, certains plaidant pour un nom et d'autres pour un autre. The Church of God, l'Église de Dieu, fut proposée, mais on y a objecté car ce nom ne donne aucune des caractéristiques distinctives de notre foi, tandis que le nom Adventiste du septième jour énonce non seulement notre foi dans le proche retour du Christ, mais montre aussi que nous sommes observateurs du sabbat du septième jour. L'Assemblée a été si unanime en faveur de ce dernier nom que lorsqu'il fut mis au vote, un seul homme a voté contre et il retira son opposition peu de temps après. Le nom approuvé. Dans le témoignage numéro 6, nous lisons « Aucun nom que nous pourrions prendre ne sera approprié, sauf s'il s'accorde avec notre profession de foi, exprime notre foi et nous marque comme peuple spécial. Le nom Adventiste du septième jour met les vraies caractéristiques de notre foi en avant et convaincra l'esprit curieux. Comme une flèche du carquois du Seigneur, il blessera les transgresseurs de la loi de Dieu et amènera à la repentance envers Dieu et à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. L'effet du témoignage fut d'établir cette question une fois pour toutes dans l'esprit des croyants. La fonction d'un vrai don. N'est-ce pas là le but d'une manifestation des dons de l'Esprit de Dieu ? Paul dit qu'ils ont été placés dans l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Éphésiens 4, versets 12 à 13. Combien il est approprié, après que les croyants aient cherché la lumière dans la prière et l'humilité, que l'Esprit parle et dise « C'est ici le chemin, vos conclusions sont correctes », puis édifie l'Église encore plus, comme c'est le cas ici, en lui disant l'incidence pratique de la question et certains des bons résultats qui découleront de leurs décisions. Organisation de l'Église. Dans une allocution prononcée par Frère White devant la Conférence Générale à Battle Creek, en avril 1861, et publiée dans la Review du 11 juin 1861, il a introduit l'idée d'une organisation plus complète de nos églises. Par invitation, 9 ministres ont tenu une classe de Bible pour rechercher plus de lumière sur ce sujet et ont été invités par la conférence a publié dans la Review les résultats de cette investigation. Après avoir présenté le témoignage scripturaire sur l'organisation de l'Église et les officiers de l'Église, le thème de l'égalité de la représentation de plusieurs États à la Conférence générale a été considéré, ainsi qu'une bonne et équitable représentation des églises dans les fédérations d'État. En réalité, c'était la première introduction de l'idée d'avoir des délégués dûment élus à des associations générales sur un ratio d'égalité sur lequel on pouvait convenir. Organisation de la Fédération de l'État du Michigan. Le 6 octobre 1861, la Fédération du Michigan fut organisée par l'élection d'un président, un secrétaire et un comité exécutif de 3 personnes. Par vote de la Fédération, il fut recommandé que les églises entrent dans l'organisation par l'adoption de l'engagement d'église suivant. Nous soussignés, nous associons en tant qu'église, prenant le nom d'Adventiste du septième jour, agréant de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Lettre de créance des ministres. Au cours de cette conférence, il fut décidé pour la première fois que des lettres de créance soient accordées à tous les ministres adventistes du septième jour en règle dans cet état, et que les ministres devraient porter sur eux des papiers, tels qu'un certificat de consécration et des lettres de créance signées par le président et le greffier de la fédération, et que ces lettres de créance devaient être renouvelées chaque année. Il a également été voté qu'un comité soit sélectionné pour préparer une allocution plaçant devant notre peuple le mode de procédure de l'organisation des églises. Cette allocution a été publiée dans la Review du 15 octobre 1861. Lettre de créance des délégués. Au mois de septembre 1862, la Fédération du Michigan a tenu sa première session à Monterey. Ici, pour la première fois, on a présenté l'idée de recevoir les églises dans les fédérations de la même façon que les membres sont votés membres d'église. Comme 17 églises avaient déjà été organisées dans l'État, elles furent admises dans la fédération par vote, et tous les membres de ces églises qui étaient présents ont été acceptés en tant que délégués. Les salaires des ministres. C'est à cette conférence également que le plan a été adopté de donner aux ministres une certaine somme d'argent par semaine pour les services rendus. Les ministres, de leur part, furent tenus de déclarer le temps passé à travailler pour la fédération avec leurs reçus et leurs dépenses, et la fédération recevant ce rapport devait faire un règlement adéquat. Lettre de créance présentée pour la première fois par les délégués. Le 20 mai 1863, la conférence générale eut lieu à Battle Creek, Michigan. C'était la première session de cet organe dans lequel les délégués portaient des lettres de créance de leurs états respectifs. La représentation n'était pas, toutefois, sur une base numérique. Les états représentés à cette occasion étaient le Michigan, le Wisconsin, l'Iowa, le Minnesota, New York et l'Ohio. Constitution de la Conférence générale et des fédérations d'États. Le 21 mai, une constitution fut adoptée par la Conférence générale et le même jour, une constitution d'État fut recommandée aux fédérations d'États. Elle fut adoptée dans une session de la Fédération du Michigan. Ces constitutions fournissaient une base numérique pour la représentation de délégués dans les fédérations d'États et à la Conférence générale. La constitution des fédérations d'États, recommandée ici, est à peu près la même que celle utilisée aujourd'hui par nos 72 fédérations locales partout dans le monde. Au moment de la conférence générale, au printemps de 1864, une recommandation fut d'abord faite à la Fédération d'État qu'un comité d'audit de laïcs qui n'avait pas été employé par la Fédération au cours de l'année soit choisi pour agir avec le comité exécutif pour l'audit et pour régler les comptes avec les ministres. Ainsi, pas à pas, selon les nécessités, l'ordre a été établi dans l'œuvre et la cause de Dieu. Ainsi, nous avons brièvement retracé les étapes qui ont conduit à l'organisation formelle de l'œuvre. Cela a été fait lorsque la dénomination était très petite par rapport à ce qu'elle est à l'heure actuelle. Lorsque la conférence générale fut entièrement organisée en 1863, le nombre total de délégués n'était pas aussi grand que ce que nous avons maintenant annuellement dans certaines des petites fédérations locales. Objet de l'organisation. Le but de l'organisation était que les biens de l'organisation soient légalement possédés et gérés, et que les ouvriers de l'œuvre agissent en harmonie, sans confusion, parce que leur mouvement était le fruit de conseils, et ainsi, ils n'étaient pas interrompus dans leur travail. Les mêmes principes adoptés dans notre organisation jusqu'en 1864 ont été intégrés dans l'œuvre alors qu'elle s'élargissait et s'étendait à d'autres pays et nationalités. Organisation générale constituée. Comme le message progressait, les organisations générales suivantes ont été formées, dont les dirigeants étaient élus lors des sessions ordinaires de la conférence générale. La General Conference Association, l'association de la conférence générale, un organe juridique de 21 membres, détenant le titre de propriété des différentes institutions d'Amérique et des autres pays. Le Foreign Mission Board, conseil d'administration de la mission étrangère, pour superviser et étendre l'œuvre de la mission à l'extérieur des fédérations organisées. L'International Tract Society, société internationale de tracts, dont la mission était la distribution de littérature et la correspondance, cherchant à ouvrir de nouvelles missions. La Religious Liberty Association, l'association internationale pour la liberté religieuse, son champ spécial étant d'aider les personnes persécutées par motif de conscience et de distribuer de la documentation sur les principes de liberté religieuse. L'International Sabbath School Association, association internationale de l'école du sabbat, dont l'objet était le développement et la promotion de l'œuvre de l'école du sabbat dans le monde. La Medical Missionary and Benevolent Association, association missionnaire médicale et volontaire. Ses travaux concernent la formation de médecins et d'infirmières, l'organisation de centres de santé, d'orphelinats, maisons de retraite, etc. Le champ occupé. Jusqu'en 1868, notre champ d'opération incluait la partie des États-Unis à l'est du fleuve Missouri et au nord du parallèle de latitude correspondant à la ligne sud de l'État du Missouri. À cette époque, le comité de la conférence générale n'avait que 3 membres, le président de la conférence étant l'un des membres. Les 8 fédérations locales étaient toutes sous la supervision de la conférence générale, qui avait son siège à Battle Creek, au Michigan. Pourquoi une réorganisation était-elle nécessaire? Comme le message s'est propagé dans d'autres pays, la question de réorganiser l'ensemble du champ s'est posée. Par conséquent, des mesures orientées dans cette direction furent prises en 1897. Mais le travail de réorganiser de manière plus approfondie a été accompli au cours des 4 dernières années, temps pendant lequel une conférence générale a été organisée avec un comité exécutif de 14 membres, et la conférence générale originale, ayant son siège à Washington DC, dispose d'un comité exécutif de 28 membres, représentant tous les intérêts du message et prenant la place de certaines associations générales qui ont été abandonnées. Organisation en place. Au 1er janvier 1903, les données suivantes de l'annuaire de l'année 1904 de la conférence générale donnent quelques faits statistiques intéressants jusqu'au 1er janvier 1903. À cette époque, notre travail organisé était constitué de 2 conférences générales, composées de 14 conférences d'union, 72 fédérations locales et 42 missions. Celles-ci sont réparties comme suit. 49 fédérations locales en Amérique du Nord, 23 à l'extérieur de l'Amérique du Nord, 8 conférences d'union en Amérique, 6 dans d'autres pays, 5 champs de mission en Amérique, y compris l'Alaska, Hawaï et Terre-Neuve, 37 missions en dehors d'Amérique, situées comme suit. 12 en Europe, 4 en Afrique, 3 en Asie, 2 en Amérique du Sud, 2 en Afrique du Sud et le reste en Amérique centrale, au Mexique, aux Antilles et dans les îles du Pacifique. Associés à ces missions sont 67 ministres consacrés et licenciés et 131 églises. Unité dans la diversité. C'est une source d'encouragement de savoir que ces différentes organisations dans divers pays et nationalités sont toutes unies dans la promotion de la grande cause de la vérité et du salut des hommes. Nous ne faisons pas confiance au simple mécanisme officiel de l'organisation, mais à Dieu, l'auteur de l'ordre. Avec sa bénédiction sur l'action harmonieuse et unie de ses travailleurs, nous pouvons réaliser à quel point il est bon et agréable d'avoir toutes choses faites décemment et dans l'ordre.